Coucou chères auditrices, chers auditeurs. Alors, j'aimerais vous prévenir avant que l'émission commence. Vous allez peut-être me trouver un petit peu nonchalant ce matin. Peut-être que la voix n'aura pas autant de peps que d'habitude. Car, vous l'aurez peut-être deviné, j'ai encore une grosse crève. Une grosse crévasse de la mort. Un état grippal qui, vraiment, me rend complètement HS. J'ai failli ne pas faire l'émission aujourd'hui, mais voilà, il me restait quand même encore un petit peu d'énergie. Et donc, ça m'embêtait de ne pas vous livrer votre émission, surtout un début de semaine. Donc, j'espère que cette émission vous plaira. Là, j'enregistre ce petit préambule ce matin-là, hein, une heure hein, avant de lancer les uploads. Donc voilà pourquoi je n'en parle pas dans l'intro qui va suivre dans quelques minutes. Bref, j'espère que ça vous plaira malgré tout. Car en réécoutant, en faisant le montage, j'ai trouvé que voilà, j'étais un peu moins énergique que d'habitude. Mais voilà, c'est la crève, c'est la goutte au nez, c'est le mal de gorge. En plus là, apparemment, on part vers une semaine de pluie encore. Donc c'est super, juste quand les gosses reprennent l'école. Youhou, c'est la fête, c'est absolument génial. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà pourquoi l'émission aussi est pas forcément super longue ce matin également. Voilà, j'essaierai de me rattraper demain, après m'être blindé de tout ce qu'il faut pour être remis sur pied. Sur ce, encore merci pour votre compréhension et on va attaquer l'émission tout de suite.
Go, go, la DVD Press JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy, Sarah, ça?
C'est pas sexy choucroute, Sarah, ça?
Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café.
J'ai la forme et je frétille comme une petite roue toute la journée.
Nous sommes le lundi 5 mars 2018. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle jeux vidéo chaque matin. Alors moi c'est Bruno Roca, hein, vous le savez, on va causer donc jeux vidéo pendant 15-20 minutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En parlant de week-end, samedi soir, j'ai enregistré avec des tipeurs de choix la nouvelle édition de la grande revue de presse JV, cette mensuelle hein, donc que j'enregistre avec des tipeurs, une émission d'à peu près 3 heures. Et là, cette fois-ci, nous avons abordé nos goûts, nos attentes, nos critiques, bref, tout ce qui concerne la presse jeux vidéo, que ce soit en format papier, sur internet, podcast, YouTube, bref, on a passé à peu près tous les médias JV en revue et donc ça va arriver dans la semaine, je vous tiendrai au courant. Un gros programme donc ce matin et ce que je propose, bah, c'est qu'on attaque tout de suite, hein, bien sûr. Allez, c'est parti! Jeuxvideo.com nous dit que Square Enix hein, revient au chevet de la version PC de Chrono Trigger. On en a parlé la semaine dernière. Cette sortie surprise de Chrono Trigger sur PC qui a fait chavirer le cœur hein, de bon nombre de fans, y compris votre serviteur, et on s'est rendu compte que la version était toute pérave et adaptée de la version mobile. Et donc Jeuxvideo.com nous dit que la page Steam hein, de ce remaster, entre guillemets, est actuellement remplie de critiques négatives, faisant état d'un portage plutôt direct des versions mobiles, avec ce que cela suppose d'interface peu ergonomique et un filtre également peu ragoûtant ou encore des bugs à gogo. Donc en réaction à tous ces commentaires négatifs, à ce soulèvement des fans sur le net hein, dont je fais partie, Square Enix a déclaré, donc je cite hein, « Nous tenions à ce que vous sachiez que nous lisons et écoutons vos messages et que nous sommes actuellement en train d'examiner les questions que vous avez soulevées. Nous publierons prochainement davantage d'informations sur la page Steam du jeu. » Alors, faut-il s'attendre à une mise à jour pour rendre ce portage digne hein, de la version Super Famicom originale? Moi, personnellement, je n'attends que ça. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même la moindre des choses que puisse faire Square Enix. Bref, affaire à suivre. Ubisoft s'est offert Blue Mammoth Games. Alors, qu'est-ce que Blue Mammoth Games? C'est un studio américain, notamment derrière le jeu Brawlhalla, qui est un des jeux en ligne les plus joués du moment. Laurent Detoc, un directeur général d'Ubisoft San Francisco, a déclaré donc que l'équipe de ce studio est experte dans le développement des jeux multijoueurs évolutifs et compétitifs en ligne et sera une addition importante au réseau de studios Ubisoft. Ubisoft, hein, toujours à fond sur la politique du jeu comme un service, sur la politique d'alimenter un gros titre pendant de très longs mois, voire de très longues années, avec des contenus sans cesse renouvelés pour garder la communauté bien au chaud à la maison. Donc cette acquisition, j'imagine donc, hein, est là pour renforcer l'expertise hein, en ligne d'Ubisoft, et également, au passage, de ramasser une des licences les plus populaires du moment. Donc voilà ce qui semble être une bonne opération. On est retombé en enfance avec les jeux vidéo en carton de Nintendo Labo. Voilà ce que titre Le Figaro, qui nous rappelle que Nintendo Labo ne sort pas avant le 27 avril, mais l'éditeur a organisé le week-end dernier à la Cité des Sciences de Paris des sessions d'essai en avant-première, auquel donc Le Figaro a été convié. L'occasion, nous dit le site, de vérifier plusieurs points cruciaux. Le carton est-il solide ? Les jeux sont-ils intéressants ? Et surtout, les sessions de montage sont-elles surmontables pour une adulte très peu douée de ses mains ? Puisque c'est Chloé Wattier qui a signé ce papier et qui nous fait part donc de cette crainte. Et vous allez voir que finalement, ça s'est très bien passé. Puisque après environ une heure et demie d'essai, nous dit-elle, la réponse aux trois questions est oui. Le montage se fait simplement, les patrons sur les planches en carton sont déjà prédécoupés, il suffit donc de les détacher avec délicatesse. Les étapes de montage sont affichées sur l'écran de la Switch, rien à voir avec les obscurs schémas des meubles en kit. Nous voilà rassurés. Sur ce niveau-là, on nous dit que tout est expliqué en vidéo, geste par geste, et il est possible de revenir en arrière. Il suffit, le plus souvent, de plier le carton à plusieurs endroits et d'utiliser les encoches pour monter le tout. Pas de colle ou de scotch à prévoir. Le temps de montage va de moins de 10 minutes pour la voiture téléguidée à une bonne heure et demie pour le piano. Selon l'âge des enfants et leur débrouillardise, ils pourront assembler les jouets sans l'aide constante de leurs parents. Libre ensuite aux petits de colorier et embellir leurs objets grâce au kit de décoration. Chloé Wattier nous dit également que les mini-jeux, qui semblent de prime abord assez répétitifs, s'adressent en priorité aux 4-8 ans. Mais Nintendo Labo inclut un module permettant de créer soi-même des petits jeux connectés afin d'initier les plus grands aux joies de la programmation informatique. Il suffit d'assigner un bouton à une action, comme appuyer sur A fait vibrer la manette et explorer toutes les possibilités pour inventer de nouveaux jeux. Et pour les plus curieux, Nintendo Labo comprend des vidéos pédagogiques expliquant comment fonctionne sous le capot chacun des jouets connectés. Je vous invite à lire l'intégralité de ce papier sur le site du Figaro.fr, le lien sera dans la description de l'émission, mais en tout cas, j'y crois de plus en plus à ce Nintendo Labo et que j'ai hâte qu'on s'amuse en famille sur ce concept qui ne ferme pas la porte à la créativité également, bien au contraire. Et je pense que c'est là aussi que ça me paraît hyper intéressant, c'est au-delà des jeux prévus par Nintendo, le fait de pouvoir inventer ses propres petits jeux et en même temps initier les plus jeunes à la programmation, je trouve ça absolument formidable, donc j'ai hâte vraiment d'y poser mes mains, sachant que les prix entre 70 et 90 euros selon le pack, voilà, un petit peu cher effectivement, comme je le dis à chaque fois, mais le concept est vraiment plein de promesses. Kingdom Come Deliverance, chasseur blanc, bug noir, un titre assez curieux qu'on peut lire sur franceinfo.fr, un article signé Jean Z, qui nous parle donc de Kingdom Come Deliverance, un jeu qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. On nous explique, Jean Z nous explique que le royaume de Bohème, dans l'Europe centrale du 15e siècle, comme si vous y étiez, c'est la promesse du jeu vidéo Kingdom Come Deliverance à jouer sur console et PC. Un jeu d'aventure, ou plutôt une simulation médiévale, nous dit-on, exigeante et exigée par ses concepteurs du studio tchèque War Horse. Sur un territoire de quelques kilomètres carrés, que l'on situerait aujourd'hui en République tchèque, justement, Kingdom Come Deliverance met en scène une tragédie féodale, comme on en joue souvent, la destinée d'un fils de forgeron ordinaire et frêle qui cherche à venger ses parents, victime d'une bataille sanglante pour le trône. Mais par contre ici, pas de magie ni de dragon, pas de hobbit ou de Graal, ce simulateur de Moyen-Âge, nous dit Jean Z, est une résurrection patrimoniale. Les bâtiments, châteaux intérieurs ont été reconstitués minutieusement sur les conseils de spécialistes. Pas de paysans crasseux, caricaturaux à l'horizon, les citoyens de cette époque se lavaient deux fois par jour. La mort est aussi facile à attraper qu'un petit rhume, un coup d'épée sur le crâne, direction le cimetière. De la nourriture avariée au déjeuner, ce sera votre dernier repas. La faim, mais aussi la fatigue ou l'alcoolémie jusqu'à son apparence, tout est ardu en Bohème et l'histoire inspirée de faits réels avance à pas d'homme. mais cette volonté acharnée et louable de réalisme, hein, argument publicitaire central des créateurs du jeu, nous dit le site, cache une toute autre histoire une fois manette en main. Celle d'abord d'un choix historique discutable d'une bohème exclusivement blanche alors que les historiens s'accordent sur une diversité humaine effective dès cette époque. Donc ça c'est un des sujets qui a fait pas mal polémique, hein, notamment ces derniers temps. Et deuxième polémique, ce sont les bugs, hein, puisque Jean Zen nous dit que 7 ans de travail n'auront pas suffi à corriger les bugs moyenâgeux impossibles à dénombrer. Visage inexpressif, doublage labial à côté de la plaque, héros catapulté dans le ciel sans explication, l'ambition est ici plus grande que la finition. Enfin, pour conclure, hein, le papier nous dit que Kingdom Come Deliverance, derrière les beaux décors, affiche une réalité composée de statistiques ardues qui plairont sans doute plus aux amateurs de chiffres que de dates. Donc un jeu qui fait parler, est-ce que parmi vous certains se sont adonnés à ce jeu ? Je sais que sur les réseaux sociaux, on peut voir notamment vraiment des bugs absolument mais incroyables, des choses complètement improbables qui se déroulent dans ce jeu. Son réalisme excessif, donc ses bugs nombreux, sa polémique concernant les choix discutables dans le jeu, tout ceci donc font que Kingdom Come, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous avez joué au jeu ? N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, bien sûr, sur le Discord, sur la page Facebook, bref, tout ce que vous voulez. Pourquoi la Switch connaît-elle un tel succès ? C'est William Oduro qui nous raconte ça sur lemonde.fr, puisque déjà 1 million d'unités vendues en France, hein, et presque 15 millions dans le monde, la Switch a fêté, nous dit-on, son premier anniversaire ce samedi 3 mars. Et oui, ça passe vraiment vite, ça fait déjà un an que la Switch a déboulé. Et donc la console, nous dit William Oduro, a réussi à confirmer la capacité de Nintendo à déjouer les pronostics et séduire les joueurs avec des machines originales. Peu auraient parié sur un bilan aussi positif, hein, nous dit William, après l'échec cinglant de la Wii U abandonnée en 2016. Mais avec sa successeur, Nintendo a redoublé d'habileté. D'abord avec son concept atypique, hein, celui d'une console modulable, aussi bien utilisable sur un écran familial qu'en déplacement, une manière astucieuse d'éviter la double concurrence des smartphones qui phagocytent le marché du jeu vidéo portable et des consoles de salon haut de gamme comme la PS4 et la Xbox One, contre lesquelles la firme de Kyoto n'a plus la prétention de lutter depuis les années 2000. Surtout, nous dit-on, plutôt que sur la 4K ou la réalité virtuelle, Nintendo a misé sur l'attachement à ses marques. L'année 2017 restera marquée donc par la sortie successive d'un nouveau Zelda, d'un Mario Kart et d'un Mario, trois des cinq licences les plus vendeuses de la marque et un tir groupé inédit dans son histoire. Et qui plus est, ces têtes d'affiche ont livré l'un des meilleurs épisodes de leur histoire également. Donc Super Mario Odyssey, hein, absolument exceptionnel. Zelda Breath of the Wild, hein, qui a réinventé ni plus ni moins le monde ouvert. Mais au-delà des jeux Nintendo, la Switch a surtout profité à plein de l'appel d'air créé par la saturation du marché du jeu indé sur Steam. Celeste, Stardew Valley, Golf Story, Shovel Knight, Oxenfree. Le catalogue s'est rapidement rempli d'un grand nombre de perles issues de cette scène débrouillarde et créative, comme un certain Celeste d'ailleurs, hein, dont les meilleures ventes, les principales ventes même, se déroulent sur Switch. Ce qui est assez incroyable, c'est que l'article nous rappelle aussi que ce succès se fait malgré le fait que sur Steam, les prix sont quand même plus bas, il y a les soldes, hein, pour vous faire acquérir des jeux, vraiment des petites pépites à bas prix. Mais voilà, le concept de la Switch fait que elle est devenue la plateforme privilégiée pour jouer à différents types de jeux, et je vous dirais que c'est pareil à la maison. Alors à ces jeux viennent également s'ajouter plusieurs sorties des éditeurs tiers, des sorties majeures des éditeurs tiers, donc qui manquaient cruellement à la Wii U, même si on craint à un moment donné une sorte quand même de saturation, notamment hein, les développeurs indés qui ont peur que certains jeux tombent rapidement dans l'anonymat. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Il y a le Nintendo Labo qui va arriver. Nintendo fait en sorte d'alimenter sa console, hein, vraiment à un rythme assez effréné. Pour l'instant, ça ne se dément pas. Et donc, on souhaite un bon anniversaire à la Switch. Et on espère qu'elle continue sur cette lancée, bien sûr. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du lundi. J'espère que vous avez passé un bon moment ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, quel que soit le moment de la journée où vous écoutez l'émission. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage pour la reprise de la semaine. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours pareil, peu avant 7h. J'en profite aussi pour passer un petit coucou aux auditeurs de la web radio Radio Bourrin, hein, sur laquelle la revue de presse JV passe chaque matin également. Portez-vous bien, ne l'oubliez pas, nous sommes la nation jeux vidéo. Panache et robustesse à vous, à demain, bye bye.